Chapitre 5. Erreur. Erreur. Quoi de plus raisonnable pourtant? Le jeune homme n'avait en rien offensé Thérèse. Pourquoi l'aurait-elle rabroué? Il lui présentait sa carte. Elle ne la prit pas tout de suite pour n'avoir point l'air trop empressé. Dès qu'on fut dans le parc, était-ce une erreur de se laisser guider vers un joli groupe d'arbres, vers un banc, de s'y asseoir à un bout pour laisser assez d'espace à l'autre bout? Quelques minutes de silence avaient produit chez Thérèse cette cristallisation un peu obstinée qui alternait chez elle avec de fâcheux élans étourdis. Et alors, quand sa résolution était bien prise et affermie, rien ne l'en eût fait changer. Le jeune homme dirait ce qu'il voudrait, Thérèse ne le questionnerait plus. « Vous permettez une cigarette ? » demanda-t-il dès qu'il fut assis. « En plein air ? Pourquoi pas ?» Personne ne fume chez Mistress Stephen, pas même cet élégant commis qui en sort le matin à 9 heures et qui rentre si ponctuellement après 5 heures. Vous vous demandez, jeune fille soudain muette, si je suis un détective chargé de vous surveiller? Mais regardez donc ma carte. Il la lui tendit de nouveau, elle y jeta un regard. Comment prononcez-vous mon nom? Demanda-t-il. C'est un vieux nom du Yorkshire. Essayez. C'est... « O-O-M-B. Cela se dit « Coum ». On laisse tomber le « B ». Et les deux initiales « E-P » signifient « Ernest, Peter » ou « Pierre » en français. « E-P Coum, journaliste. En savez-vous assez ?»« Bien assez !» fit Thérèse d'un air indifférent, tandis que ses yeux suivaient les évolutions d'un gros merle dans l'herbe. « Alors, enchaînons. » Je quittais Sylvain, j'allais à la découverte de la maison Naïmol, sans grand espoir d'y obtenir votre adresse actuelle. Ceux qui jouaient pour Sylvain ne joueraient pas pour Madame Naïmol, mère des quatre nymphes. Inutile ici d'évoquer l'ombre de ma mère. Cependant, me fiant à ma chance, je sonnai, je dis au butler qu'étant un parent de Mademoiselle Lemaire, en passage à Londres, je désirais la voir. Il me regarda d'un œil sournois. Ma petite histoire ne lui paraissait pas timbrée d'une bonne estampille. Il me répondit que Mademoiselle Lemaire avait quitté. Je lui demandai son adresse actuelle. Il hésita. Je lui croisai la paume avec de l'or, comme nous disons. « Avec un demi-souverain, mademoiselle, mon dernier, mon seul. Soyez touchée, je vous en prie. »« Je suis touchée, concéda-t-elle, mais vous n'auriez pas dû dire cela. » On dit ce qu'on peut pour attendrir un cœur de pierre. Il se trouva que dans ces circonstances, vous aviez vous-même travaillé pour moi. C'était la femme de chambre et non la maîtresse de maison qui avait votre adresse. En effet, j'ai peut-être commis là une grosse erreur, fit Thérèse à voix basse, comme si elle se parlait à elle-même. On ne peut jamais savoir ce qui résultera de tourner à droite ou à gauche. La femme de chambre fut appelée par le butler qui m'introduisit dans son office. Et là, j'ai reçu toutes les précisions nécessaires. La femme de chambre s'attendrissait sur votre départ. Elle avait les yeux humides et se les essuyait avec un joli mouchoir qu'elle me dit tenir de vous. Vous avez une très bonne presse chez le personnel. Le reste était presque trop simple. Si Thérèse ne s'était pas jurée assez sottement de ne plus faire aucune question, elle aurait aimé savoir pour quelle raison M. Ernest Pierre Coum, désirant faire visite à Mademoiselle Thérèse Lemaire et connaissant son adresse, n'avait pas tout bonnement tiré la sonnette de Mistress Stephen au lieu de déambuler 2 jours de suite après la jeune fille dans ses courses. Là, de nouveau, elle fit erreur au lieu de suivre son penchant naturel qui était pour la clarté et pour les explications nettes. Depuis qu'elle était à Londres, Thérèse semait derrière elle les erreurs, les bévues et les incompréhensions comme le petit poucet semait des miettes de pain. Sa destinée la suivait sur cette piste. M. Coum n'expliqua donc rien du tout, ce qui, sans doute, lui convenait assez bien. Pendant un silence assez long, il regarda fixement l'horizon du parc et Thérèse en profita pour étudier son profil et sa mise. Il avait ôté son chapeau pour se rafraîchir et le tenait sur son genou de sa main droite à dégantée. Une belle main longue, fine et soignée, aux ongles assez plats, élargis du bout. Et Thérèse se souvint qu'une de ses amies, qui se croyait fort en chiromancie, lui avait exposé que cette forme d'ongle indiquait l'ingéniosité, le penchant et le talent de faire servir tout à des fins déterminées. « Comme c'est juste !» se dit-elle avec un étonnement assez naïf. « Il a suffi que je prononce le mot « Court-Sylvain » l'autre dimanche » pour qu'il échafaude là-dessus toute une manœuvre et qu'il arrive à découvrir mes deux adresses, l'ancienne et la nouvelle. » Avec quelque timidité et quelque gêne toutefois, elle fixait ses yeux sur le visage un peu détourné, dont un pli entre les sourcils trahissait l'impatience. « Notre conversation ne marche pas comme il voudrait, » pensa-t-elle, « mais ce n'est pas à moi de prendre l'initiative. » La ligne nette des traits lui plaisait. Le nez mince et assez busqué, la lèvre supérieure courte, laissant voir aisément des dents larges et blanches, tandis que le haut du front avait la blancheur de peau des roues, les cheveux bruns et brillants avec des reflets cuivrés, la moustache d'un roux foncé, l'ensemble correct mais sans recherche, l'aisance de la pose qui caractérise partout un Anglais de bonne éducation, Thérèse enregistrait cette physionomie et cette attitude sans y trouver rien à critiquer. Si elle avait eu à faire le signalement de M. Ernest-Pierre Coum, elle aurait pu indiquer un signe particulier. C'était sur la tempe droite, assez près de l'œil, un petit dessin, fin comme un tatouage japonais, une sorte d'étoile à six branches assez régulière ou d'araignée à six pattes formée sans doute par un nœud de veine à fleur d'épiderme. « Eh bien, mademoiselle, » fit son compagnon en se tournant vers elle, si brusquement qu'elle en eut un flot de rouge au visage. « M'avez-vous assez considérée ? Je sentais sur moi vos yeux qui me brûlaient positivement. La connaissance est-elle faite ? Pouvons-nous causer maintenant ?»« Mais certainement, nous sommes venus ici pour ça, » répondit-elle d'un ton négligent qui n'était pas tout à fait naturel. La situation avait son charme, Thérèse se l'avouait au fond d'elle-même. « Eh bien, voici ma proposition. Soyons amis, voulez-vous ? Laissez-moi dire, ne m'interrompez pas tout de suite. Je suis assez seule, pauvre et pas très gaie. Le sort me fait rencontrer une jeune fille assez seule, pauvre et pas très gaie. Pourquoi me refuseriez-vous le plaisir de vous voir, de me promener avec vous tout bonnement ? Voyez, je ne vous offre même pas de vous être utile. Cependant, je pourrais vous servir de cicérone. Voulez-vous faire avec moi une partie de bateau, demain après-midi ? Il y a des endroits ravissants sur la Tamise. Nous prendrions le thé dans un de ces cottages qui croulent sous le chèvrefeuille et la clématite. Je rame assez bien. Dites, voulez-vous ? Cela me tente, fit Thérèse à demi-voix. Entendu, alors ? Et vous mettrez votre chapeau d'aubépine, pas ses yeux de paon, cela nous porterait malheur en bateau. Voulez-vous que nous nous rencontrions sous le Maber Arch, l'arcade de droite en entrant, à 2 heures précises ? Ah, que vous êtes gentille quand vous ne dites pas non, non et non. Mais, fit-elle indécise, déjà un mais ? Oui, il me semble qu'il vaudrait mieux que vous veniez me prendre à ma pension. Le jeune homme eut l'air stupéfait. « À votre pension ? Mais pourquoi ? Quel avantage ? Est-ce que cela ne serait pas plus correct ?» Elle dit cela avec hésitation, elle se trouvait un peu ridicule. « Franchement, » dit Ernest-Pierre Coum, « je n'ai pas la moindre envie de faire une incursion chez Madame Stephen, c'est bien son nom, je connais ce genre de pension bourgeoise. Ce n'est tout de même pas mon milieu. » Thérèse se redressa très rouge. « Dans ce cas, » fit-elle vivement blessée, « laissez-moi donc parler. La pension Stephen n'est pas votre milieu non plus. Vous y êtes par erreur ou par la force des circonstances. Vous y resterez très peu, j'espère. Chez vous, dans votre pays, vivriez-vous à la pension Stephen ? Oh non, j'avais mon chez-moi. Vous voyez bien. » « Je ne vois rien du tout. La maison est parfaitement convenable. Les pensionnaires sont tous d'honnêtes personnes. »« Vous tenez absolument à me présenter à votre landlady ?» demanda-t-il en la regardant avec le sourire qu'elle n'aimait guère. « Vous voulez m'infliger un quart d'heure dans ce salon qui sent certainement le chou ? Il faudra que je reste assis sur un canapé de crin noir et que je fasse l'agréable par-dessus le marché ? en quelle qualité me présenterez-vous à la bonne femme ? C'était la question que Thérèse se posait depuis un instant. Que d'explications il faudrait donner, que de commentaires il faudrait subir, toute la maisonnée en bruirait du haut en bas. Galimard dirait « Tiens, tiens, il paraît qu'on fait aussi des connaissances. » Madame Stephen lèverait les deux mains d'exhortation et gémirait « Ne vous faites pas d'illusions, le monde est méchant. Que savez-vous de ce jeune homme ?» Et l'élégant commis qui témoignait déjà à Thérèse quelques attentions serait choqué et probablement jaloux. Que d'ennui ! Et comme il était plus simple de ne rien dire. « C'est bien, dit-elle, je vous rencontrerai au Maple Arch. » « Ah, mais dites cela plus gracieusement. Ce n'est pas une séance chez le dentiste que je vous propose. » Elle haussa un peu les épaules et se leva. « Je pensais visiter le zoo cet après-midi, fit-elle. Je n'y suis pas encore entrée. » « Vous tenez bien à voir des singes hideux et indécents, des lions misérables, à respirer des odeurs écœurantes. Quel goût bizarre quand on peut regarder un merle en liberté et des fleurs en y ajoutant pour vous des bébés anglais champions du monde dans la série des poids-plumes. « Je visiterai le zoo un jour que je serai seule, » concéda-t-elle. « Mais vous ne serez plus seule jamais. Je suis le compagnon élu de vos promenades. C'est signé, c'est juré. Je vous conduirai à Hampton Court, à Richmond, partout. Nous descendrons la Tamise jusqu'à son estuaire. Vous verrez les docks, le quartier chinois où une jeune miss ne va pas seule. Que de jolis moments vous allez avoir. » « Et vous ? » demanda l'imprudente.